Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. C'est pas de moi, c'est de Montesquieu. Mais vous dire comment vous êtes à la bonne place sur Canal M à écouter l'émission Un livre découvert à laquelle vous convie Clotilde Seil.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, mes amis à l'émission, je vais m'entretenir avec Gérard Saint-Denis, qui est un abonné du SQLA, qui ne va pas nous parler de un, de deux, mais de trois livres. Et puis, je reçois ici même, elle est déjà arrivée, elle est à mes côtés, Catherine Trudeau. Bonjour,
bonjour
Catherine.
Bonjour, très heureuse d'être ici.
Et puis aussi, nous avons notre bénévole de la semaine. Cette semaine, j'accueille Michel Laval avant qu'un avion ne nous l'enlève à nouveau pour partir vers ses lointains pays pendant quelques mois.
Bonjour,
chanceux. Ça va bien, Michel?
Oui, très bien.
Et puis, comme toutes les semaines à cette émission-là, eh bien, nous allons revisiter un classique. Aujourd'hui, j'ai choisi un jeune classique. J'ai choisi Novecento, pianiste d'Alessandro Baricco, parce que je sais aussi que c'est un livre qui tient beaucoup à cœur à notre amie Catherine Trudeau. Et puis, il y aura la page de littérature, la page de lecture. J'ai choisi pour vous cette semaine Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, dont va venir nous parler Madame Odette Élie, bénévole, qui a lu ce livre pour vous. Elle sera là la semaine prochaine. On va en entendre un extrait. Et puis, nous parlerons de Catherine Leroux, prix France-Québec pour son roman Le mur mitoyen. Et bien sûr, nous terminerons cette émission avec quelques rafales.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérard Saint-Denis.
Bonjour chère dame.
Comment ça va Gérard?
Ça va bien et j'écoutais à l'entrée de l'émission, à l'ouverture de l'émission, vous parliez de Montesquieu. J'ai adoré Montesquieu, je connais Montesquieu. Il a eu une citation que je vais vous dire qui va vous intéresser et qui est très d'actualité.
Allez-y.
Il a dit « Une loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais doit être loi parce qu'elle est juste. »
Excusez-moi, j'en ai raté un petit peu. Allez-y okay, doucement. Une loi,
une
oui,
loi,
s'il vous plaît.
Une loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais doit être loi parce qu'elle est juste.
Ah, mais doit être loi parce qu'elle est juste. Ah, oui, excellent.
C'est
Montesquieu.
Ce grand philosophe qui était Montesquieu.
Quelle plume.
On parle de Simone de Beauvoir parce qu'on parle d'une biographie de Simone de
oui.
Beauvoir qui a eu une vie fantastique, une vie littéraire très, très, très chargée qu'on peut lire facilement au SQLA.
Oui.
Et on a, qui était avec André Gide, qui était son compagnon pendant combien d'années, je ne sais pas.
Il faudrait peut-être dire, Gérard, d'abord, que c'est une bio qui est signée de Huguette Bouchardot, si vous me le permettez, hein, pour que, comme ça, si les gens veulent se procurer
c'est
cette
ça.
Bio. Bouchardot, je voudrais l'appeler Bouchardeau. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que ce n'est pas la seule.
C'est intéressant parce que c'est une partie de la vie littéraire de France qu'on écoute en même temps qu'on lit ce livre. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a marqué la place de la femme en littérature, qui a marqué aussi les idées nouvelles. C'est quelqu'un qui était tellement avant-gardiste que quand on a peu de gens qui vivent aujourd'hui dans le monde contemporain qui ont aussi cette avant-garde qu'elle avait. Elle est fantastique, cette bonne femme-là.
Est-ce que vous avez l'impression, Gérard, est-ce que vous avez l'impression que chez les femmes auteurs, justement, on va moins loin aujourd'hui
parce qu'il y a quand même des
Christine Angot, il y a quand même des gens, je sais pas, en tout cas, là, il y a plein d'autres gens mais qui font avancer.
Il y en a eu d'autres, mais je veux dire, aujourd'hui, il y en a des femmes qui ont été un peu plus loin que beaucoup de femmes qui ont été plus loin que les hommes.
Il me semble.
Mais je dis qu'elle était été, je parle socialement, là, je parle même pas d'hommes et femmes, je parle de personnages,
oui.
Elle a été tellement à l'avant-garde. Quand elle parlait du droit des femmes, c'était pas mesquin, c'était pas restreint.
Non, non.
C'était une ouverture pour permettre que la société soit meilleure, soit plus ouverte, soit plus dynamique, soit plus humaine aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a énormément d'humanité dans leur affaire. Et j'imagine, l'autre fois, quand j'ai lu ce livre-là, et quand je regarde des ouvrages de Gide, je me dis, quel genre de relation, quel discours ces gens-là avaient au coin du canapé le soir. c'est merveilleux.
Quand
tu vas être un petit oiseau et revivre ça, ça doit être fantastique.
Mais oui, sans compter...
J'invite nos gens à les... Moi, je ne suis pas un amateur de biographie, mais ça, je trouve que c'est très, très bon.
Et puis, décidément, vous m'épaterez toujours, Gérard, parce que vous êtes capable d'aller absolument dans toutes les directions. Et là, vous m'avez dit, je veux parler du livre qui s'intitule « Le semeur, enraciner sa vie pour mieux s'épanouir » de Mario Pelcha.
Oui, et c'est encore un genre de biographie, mais
oui.
c'est pas fait demain. Savez-vous, l'impression que j'ai eue en lisant ça, c'est un petit peu comme s'il était venu s'asseoir dans mon salon.
Ah oui?
Et qu'on avait parlé côte à côte.
Comme à l'époque de Madame de Beauvoir.
Oui, exactement. Il y a comme une relation qui se fait entre ces...
Ouais.
Et je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de spiritualité, etc.
Ouais.
Mais c'est tellement sincère, c'est tellement évocateur de préoccupations, de questions qui se posent, et qu'on embarque et on a les fois l'impression de reposer une question.
Ouais,
à
c'est
la
ça.
Personne
Mais
qui
c'est
dit.
C'est lui qui a ouvert un vignoble aussi, je pense. Hein?
Oui, oui, oui.
C'est ça. Hein? Il n'est pas du tout en Estrie ni rien. Lui, il est sur l'autre rive. Hein? C'est dans la Naudière ou je ne sais plus où.
C'est un bonhomme quand même un peu...
Ouais.
C'est un bonhomme le fun, c'est un bonhomme agréable, c'est un bonhomme surtout très sincère.
Ah,
et
oui.
Ça, je pense que c'est important quand même. On a besoin d'avoir cette sincérité-là souvent,
oui.
là, qui nous manque.
Oui.
Mais je tenais quand même à le dire à nos gens, ils peuvent le et puis c'est une façon de rencontrer un personnage qu'on connaît bien.
Et absolument. Et donc, c'est une excellente suggestion. Troisième suggestion, elle est à propos, puisque nous célébrons cette année le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale.
C'est
et vous êtes plongé, grâce à Max Gallo, dans l'histoire de cette Première Guerre mondiale.
Ce bonhomme-là, c'est Max Gallo, il me fait penser à Henri Guillemin. C'est un bonhomme qui raconte.
Oui.
Et moi, je prends un plaisir fou à lire du Gallo. Je trouve que ça coule tellement bien, et on a l'impression qu'on est embarqué dans le livre. Ça, il y en a plusieurs Gallo pour ça, soit au Service québécois du livre adapté. Oui, il y en a plusieurs. On peut les lire avec beaucoup d'intérêt et on va retrouver une façon de présenter l'histoire qui est très dynamique, très ouverte, qui est très comment je dirais ça, très accessible aussi.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas toujours évident. Je sais que cette affaire de la Première Guerre mondiale et comment les, je veux dire, tous les tenants, tous les aboutissants, comment les choses se mettent en place pour qu'inexorablement on arrive à ces drames humains là. Je sais que on a beau revoir des séries, on a beau relire des livres, c'est pas toujours facile. Avec Max Gallo, les choses sont claires, les choses sont dites.
Et j'ai appris, moi qui ai enseigné l'histoire, je me pensais très bonne histoire, j'ai appris moi, au niveau secondaire, mais j'ai appris, par exemple, je ne me rappelais plus ou je ne m'en souvenais pas, mais j'ai appris que les États-Unis ont, au début de la guerre, ont fourni des armes aux Allemands.
Oui. Ah oui.
Ils ont embarqué juste en 17.
Ah oui.
Et je me rappelais pas de ça.
Ils en ont fourni des armes à du monde, eux.
Et des fois, ça change un peu la perspective. Oui. Moi, je me souviens, en 61, mon premier voyage en France, on venait de finir l'autre guerre, la deuxième guerre, puis les gens avaient une réaction avec les Américains qui me surprenaient, mais moi, je commence à comprendre pourquoi.
Oui, mais absolument.
J'en étais surpris.
Gérard, avant qu'on se quitte, je voudrais citer quelques titres disponibles soit au SQLA, soit à la bibliothèque de l'INCA, parce qu'il a écrit notamment sur l'Italie de Mussolini. Ça, c'est disponible à l'INCA. Il a écrit sur Jeanne d'Arc. Il a écrit sur Louis XIV. Il y a même deux...
Ah, ça, c'est très bon.
Ah, bon.
Louis XIV, c'est très bon parce qu'on raconte beaucoup un peu comment il a pu... Louis XIV a pu diriger et orchestrer un peu son entourage pour être capable d'atteindre ce qu'il voulait. C'était un bonhomme assez...
Un fin stratège.
Oui, un fin stratège, c'est ça.
Alors, écoutez, Gérard, donc, j'invite tous les gens qui, comme vous, sont des passionnés d'histoire à aller voir soit au SQLA, soit à l'INCA, mais on a à peu près en tout une quinzaine de titres différents de Max Gallo. Et je vous remercie tellement de nous en avoir parlé, de nous avoir remis ce nom-là en mémoire. Merci beaucoup, Gérard Saint-Denis.
C'est un plaisir. Je salue nos auditeurs et je leur dis que, on va pas oublier, quand on est en présence d'un auteur, c'est un petit peu comme si on avait un voisin à qui on rencontre sur le coin du perron et qu'on parle avec. C'est ça. C'est une communication qui est merveilleuse et je souhaite qu'on puisse la faire très, très longtemps.
Je vous adore. Je vous souhaite une belle fin de journée, Gérard Saint-Denis. Merci beaucoup.
Portez-vous bien.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et notre invitée spéciale, c'est Catherine Trudeau.
C'est moi l'invitée spéciale, mais quel privilège à moi d'être ici aujourd'hui. C'est une belle découverte. Je suis
Catherine,
ravie d'être là.
Évidemment, la comédienne, on la connaît, mais comme je le dis toujours quasiment d'ailleurs à tous les invités qui viennent ici, on parle de bouquins. Parce que vous êtes, j'allais dire d'abord et avant tout, non, c'est pas vrai, mais vous êtes aussi, voilà, ce serait le terme approprié, une grande lectrice, une fanatique de lecture.
Je suis une grande lectrice depuis très longtemps. C'est un des beaux héritages que m'ont transmis mes parents, parce que mes deux parents sont de grands lecteurs, mes frères le sont aussi, et mes enfants, mes deux fils, je l'espère, le seront. Je suis porte-parole du Prix Libraire Jeunesse, entre autres, pour continuer ce passage-là. Chez moi, les livres sont présents, sont disponibles aux enfants. C'est pas quelque chose qu'on cache ou qui n'est pas accessible.
Ça traîne sur des tables, il y en a partout.
Ça traîne à l'envers, à l'endroit. Mon fils Élie, qui a 6 ans, est en train de parcourir les Tintins de son père. Wow. Je trouve ça beau, cet héritage-là. Je suis une grande lectrice par période. En ce moment, je suis moins dans la lecture. L'automne, étonnamment, je me terre un peu, puis je suis moins... je sais pas pourquoi, je regarde plus la télé. Mais cet été, c'était mon travail d'été de rendre compte à Cap sur l'été. Je lisais des livres, je faisais des chroniques, lectures à la télé. Quand une passion devient ton métier, attends, là, tous les dards sont dans le bullseye, si je peux me permettre de le dire ainsi.
Même si ce n'est pas toujours évident parfois d'être obligé de lire des livres parce qu'il faut en parler. C'est vrai que ça, parfois, en tout cas, moi, je sais, pour faire cette émission-là, d'abord, c'est évident, on parle d'à peu près 15 ou 20 livres par émission. Je ne les lis pas tous, c'est clair, et j'espère qu'on me le pardonnera. Vous, comment vous vivez avec cette réalité-là, Catherine?
C'est très pertinent comme question, parce qu'effectivement, j'ai eu à lire parfois des œuvres qui ne m'étaient... C'était moins dans mes goûts, disons-le comme ça. Mais souvent, j'essaie de trouver une appréciation différente, justement, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui est mon premier métier. Pour moi, cela dit, la lecture demeure toujours un plaisir. Et je suis de celles, selon les commandements de Pénac, je crois, qui se permet de laisser aller un livre. Si je n'ai pas à le lire pour le travail, je n'ai pas peine à le laisser aller. Pour moi, la lecture doit demeurer une période privilégiée et riche. Et c'est un temps. Il faut se donner la peine de s'asseoir et de prendre un temps. Il faut travailler un peu parfois pour la lecture. Et puis quand c'est un travail, parce que c'est un sujet qui m'intéresse moins ou qui me donne du fil à retordre, je préfère le laisser aller pour aller vers une autre œuvre qui va peut-être me passionner davantage. Je suis une lectrice un peu difficile pour ça. Je dois être séduite assez rapidement. Dans les premières pages, je dois être happée, sinon je laisse aller. Des fois, je ne donne pas la chance au coureur.
Catherine Trudeau, le livre que vous nous avez amené, là par contre, il vous a happé et vous ne l'avez pas abandonné. Parlez-nous de ce livre.
C'est un livre formidable, bien sûr, sinon je n'en aurais pas parlé aujourd'hui, qui est le premier roman de Dominique Fortier, qui en a trois à son actif et qui sont les trois, je crois, dans la banque. Il y a aussi Les Portes de Saint-Laurent,
oui,
je crois.
Les Larmes de Saint-Laurent.
Merci.
Et la porte du ciel.
Merci. Mais ici, aujourd'hui, je vous parle du Bon usage des étoiles. C'est un roman qui s'inspire de la dernière expédition de Sir John Franklin, qui est cet expéditeur britannique qui est parti en 1845 avec deux navires, 129 hommes d'équipage, 45 tonnes de nourriture à bord pour partir à la quête de la porte du Nord-Ouest, disons-le comme ça, donc pour le passage entre le Canada et l'Angleterre. C'était à cette époque où on cartographiait par navire, c'était comme
ça
que ça se passait.
Ben oui, ça se passait comme ça.
Et c'est sa dernière expédition. Je ne vous vends pas de punch en vous disant qu'il est décédé au cours de cette expédition-là, qui a duré 3 ans. Ils ont été, ces hommes-là, prisonniers des glaces. Donc, d'une part, il y a ça. Oui, pendant plusieurs mois, il y a eu même... les marchandises qu'ils ont apportées avaient été mal mises sous conserve et elles ont été contaminées par le plomb. Donc, c'est un équipage qui a souffert beaucoup lors de cette expédition-là. Et parallèlement à ça, il y a plusieurs pôles, je ne veux pas m'égarer, mais il y a plusieurs pôles dans ce livre-là. Il y a une narration donc plus classique et il y a le deuxième homme de l'équipage qui s'appelle François Crozier. Je ne sais pas si c'est un personnage fictif inventé par Dominique Fortier ou si c'est réel, mais lui, il l'a sous forme de journal. Donc, il y a une narration classique, il y a le journal de François Crozier qui rend compte de comment ça se passe pour l'équipage. Et pendant ce temps, en Angleterre, il y a Lady Jane Franklin, qui est l'amoureuse, la femme de Sir John, qui, elle, n'a pas de nouvelles de son mari pendant 3 ans et qui multiplie les bals et les thés et les causeries dans toute l'opulence qu'on peut imaginer du milieu du 19e siècle. L'opulence et la richesse et le sucré et le tout ce que vous voudrez, du thé anglais et tout ça. Donc, dans l'écriture de Dominique Fortier, il y a cette richesse-là moi, je suis très sensible à ça. Je suis une fille qui aime les mots. Et ça, là, c'est truffé de ça. Il y a des phrases délicieuses qu'on a envie de lire et relire et relire. Mm-hmm. Et d'un autre côté, quand on revient dans l'Arctique, dans la puissance de l'hiver, la maladie, la douleur,
On n'est plus dans le sandwich au concombre, là.
J'adore ça. On n'est plus dans le scone et la... Non. Alors, j'aime ce voyage. Moi, ce que j'aime quand je lis... C'est voyager. Mm-hmm. Et là, non seulement Dominique Fortier m'amène littéralement en bateau, en navire, en voyage, mais je suis dans un autre siècle, je suis dans une autre façon de parler, je suis dans une autre façon de vivre les choses. J'ai été soufflée par ce roman-là, je l'ai adoré. Il y a de tout pour tous là-dedans, il y a des recettes, il y a de la poésie, il y a du théâtre, parce que sur le navire... Pendant 3 mois, pendant les mois d'hiver ou pendant 3 ans, ils doivent faire quelque chose, ces hommes-là. Donc, ils se mettent à faire du théâtre. Il y a des bouts plus poétiques. Il y a des bouts plus concrets, très, très concrets, de la description de cette vie difficile-là. Une écriture très, très recherchée. Et les droits, peut-être serez-vous curieux de savoir que les droits ont été achetés par Jean-Marc Vallée. Un réalisateur de Crazy, entre autres choses, et de La Reine Victoria. Il est en train, avec Dominique Fortier, de co-scénariser du Bon usage des étoiles. Donc, on imagine un film à grand déploiement, gros budget de navires et tout.
Dominique Fortier, que j'essaie de recevoir à cette émission-là, parce que c'est vous qui m'avez donné d'ailleurs cette envie-là de la recevoir. En plus, c'est formidable quand on a la chance d'avoir un auteur québécois. Donc, c'est une femme québécoise qui a écrit 3 livres et les 3 livres ont été enregistrés. Alors, c'est tellement le fun. Catherine Trudeau, vous avez des petits extraits, petites citations, je pense. Hein? Ce sont des passages courts que vous nous avez choisis.
Oui, je vais vous faire un petit passage court. Je vais vous faire celui-là, attendez-moi.
Mais je me regarde avec un plaisir.
Je choisis, mais ça parle de l'hiver. Là, ça va peut-être nous donner le goût de mettre nos pneus d'hiver, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs.
Encore.
Alors, j'y vais. Chaque jour, il faut briquer le pont pour qu'il reluise. Non comme un sou neuf. On n'a que faire de l'argent dans cette petite société arctique isolée au bout du monde. Mais pour qu'une dame vêtue d'une robe blanche puisse le balayer de ses jupes sans les souiller. Cette dame blanche accompagne les hommes en pensée, tandis qu'ils s'échinent à 4 pattes, les mains gercées, les doigts bleuis par le froid, les genoux râpés par leur pantalon de grosse laine qui n'en finit plus de geler et de dégeler, le dos rompu sous le fait du labeur quotidien, éternellement recommencé. Elle flotte au-dessus d'eux, légère, gracieuse, insaisissable. Il leur arrive sans doute de distinguer sa silhouette évanescente dans le nuage de buée qui s'échappe de leur bouche et se dissipe devant eux avant de se reformer à la prochaine expiration, ou bien ils la reconnaissent pour l'avoir aperçue en rêve et vue disparaître au petit matin, ombre blanche sur le noir de la nuit et du jour confondu. Une fois la corvée finie, les hommes frissonnants rentrés jusqu'au lendemain, la neige se glisse par les interstices de la toile tendue par-dessus le pont et revient danser sur le bois, légère, gracieuse, insaisissable.
La voix que vous venez d'entendre, si vous venez juste de vous joindre à nous, était celle de Catherine Trudeau, qui est notre invitée spéciale du jour à cette émission, Un livre découvert. Je le dis, je le redis, Catherine Trudeau, parce que je sais que nous allons recevoir des commentaires. Et là, ils vont dire, mais est-ce qu'elle lit chez Fuse et Voix? Est-ce qu'elle enregistre des livres? Si un jour, je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé, mais si un jour, vous nous arrivez avec un livre, par exemple, en disant peut-être une proposition, allez savoir. Une porte pourrait peut-être s'ouvrir.
Moi, je serais ravie, c'est certain. Je sais qu'on va en entendre un petit peu plus tard. Je n'oserais pas dire que je ne serais nullement ferrée pour l'instant pour faire la lecture, mais j'aime faire la lecture. J'aime ça, je trouve ça beau.
Mais oui, mais c'est
pas... Je trouve ça beau faire ça.
Vous savez, moi, j'ai l'habitude, lorsque des gens ont la générosité, comme vous, Catherine Trudeau, d'abord de venir à l'émission, puis de lire des... Je ferme les yeux. J'écoute en fermant les yeux. Et j'ai pris cette habitude-là, et là, j'en aurais pris, mais alors... Mais nous avons une émission à finir.
Voilà.
Catherine, d'ici quelques jours, vous serez au Salon du Livre, parce que vous allez faire quelques rencontres, et très, très brièvement, ce sont des rencontres avec des auteurs de la littérature jeunesse.
Voilà, avec les auteurs jeunesse, je vais rencontrer Marianne Dubuc, Patrick Isabelle et Simon Boulris, qui sont, entre autres choses, les récipiendaires des derniers prix jeunesse, tout à l'automne qu'on a remis en septembre. Je vais les faire jaser un peu de leur univers, ce qui a inspiré leurs belles œuvres pour nos jeunes.
Vous devez pas aimer ça du tout d'être au Salon du Livre. Ça doit être, vous devez être comme dans un magasin de porcelaine.
C'est pour ça que j'y vais rarement parce que je viens folle et je suis pas capable de choisir. Alors, il y en a trop et puis je deviens, ça me paralyse. Ouais. Mais là, cette année, j'aurai un boulot à faire, donc peut-être que je vais me contenir un peu.
Alors, j'espère qu'on va s'y retrouver parce qu'on devrait y être aussi, nous, là-bas. Bien sûr, on aura un stand, Vues et Voix.
J'irai vous saluer, assurément.
C'était Catherine Trudeau. Merci infiniment, Catherine.
Merci à vous.
Au revoir.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
C'est un classique peut-être un petit peu plus récent que d'habitude, mais c'est une histoire qui a fait le tour du monde, qui a donné lieu à un spectacle, qui a donné lieu à un film aussi remarquable. C'est Novecento Pianiste de Alessandro Barico. Écoutez, l'histoire de ça, peut-être ne la connaissez-vous pas. Novecento, c'est un homme, c'est au départ un bébé qui a été abandonné. Il est né sur un paquebot et on le trouve sur le paquebot. Et l'enfant grandit, il devient l'enfant adoptif des marins qui sont là. Et un jour, on l'assoit à un piano. Et ce jour-là, c'est une révélation extraordinaire. Et ce type devient pianiste. Et il passe sa vie sur ce bateau jusqu'à sa mort, en fait. Sans vous dire, si vous ne connaissez pas la fin, je ne vous la dirai pas parce que c'est... Mais c'est un livre d'une beauté. Catherine, ça faisait partie de la liste. Vous avez failli.
J'ai eu du mal à faire cette liste, d'ailleurs. Il faudrait que je revienne, Clotilde. Mais ça faisait partie de la liste. Un grand coup de cœur aussi. Surtout, je l'ai vu au théâtre avec Pierre Lebeau. Cette pièce-là avait été mise en scène par François Gérard au théâtre. C'est un coup au cœur. C'est un roman qu'on débute et qu'on ne termine pas sans l'avoir. Tu sais, c'est comme un souffle, on le lit d'un coup.
Exactement. Et voyez-vous, dans le texte, c'est l'ami de Novecento, qui est un trompettiste, hein, si vous vous en souvenez. C'est lui qui raconte cette histoire, cette destinée absolument hallucinante. Donc l'histoire de ce virtuose, en même temps qui est complètement énigmatique, qui pourrait... passer éventuellement pour quelqu'un d'autiste, Hein, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, on n'est pas tellement sûr. Il y a vraiment, lorsqu'ils se mettent au piano, il y a d'abord ce génie, cette espèce de talent qui lui vient de, on ne sait pas où, parce qu'on ne connaît pas ses parents. Il est né sur ce bateau, il est arrivé là, on ne sait pas où non plus. Et voilà, et donc il franchit tous les océans de la Terre et voilà, il joue du piano. C'est un concertiste merveilleux. Je voudrais vous dire que le texte a été enregistré. Vous pouvez trouver ça à la bibliothèque de l'INCA, entre autres. Mais pour une fois n'est pas coutume, j'ai fait autre chose aujourd'hui. Moi, c'est un texte que j'avais acheté au Salon du Livre, d'ailleurs, chez Gallimard Audio, parce que Gallimard, ils ont une série audio. Et je me suis acheté ce texte-là, lu par Jacques Gamblin, l'auteur français. Et je me suis dit, tiens, je vais vous en faire écouter un petit bout, parce que, mais encore une fois, si vous ne parvenez pas à mettre la main sur cet audio-là, tel que lu par Jacques Gamblin et sorti chez Gallimard, donc vraiment en CD, là, on ne peut pas lire ça sur son Victor, Daisy, là, quel engin, Catherine,
oui,
que les non-voyants utilisent.
Oui, voilà. France m'a expliqué tout à l'heure.
Voilà, mais donc si vous ne pouvez trouver cette version de Jacques Gamblin, il existe donc une version audio à la bibliothèque de l'INCA, mais je vous propose qu'on aille vers cet extrait de Novecento lu par Jacques Gamblin.
Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là, définitivement. Danny Boudman, T.D. Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait... Tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire. Mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches, même ma trompette. Je l'ai vendue. J'ai tout vendu, quoi. Mais cette histoire-là, non. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là. Limpide et inexplicable. Comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Boudman, T.D. Lemon Novecento.
Le comédien Jacques Gamblin, c'est un extrait de Novecento, pianiste d'Alessandro Baricco, que vous pouvez donc trouver sous étiquette Gallimard Audio, en espérant qu'on puisse encore le trouver, mais une dernière fois. Sinon, à l'INCA, ils l'ont, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Catherine Trudeau, d'avoir été là pour la première partie de cette émission.
Merci.
En seconde partie, nous nous entretenons avec Michel Laval, bénévole, et puis il y aura aussi d'autres nouvelles et plein d'autres titres à vous suggérer, notamment beaucoup de nouveautés. À tout de suite.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et pour accueillir Michel Laval, bonjour Michel.
Bonjour Clotilde.
J'ai choisi une musique, celle qu'on vient d'entendre, de Roby Lakatos et son ensemble Lakatos, né à Budapest, qui est un éminent musicien hongrois. Mm-hmm. Comme d'ailleurs, c'est un homme d'ailleurs,
enfin, oui,
c'est
Gabi.
Un Gabi Glashman, qui est né à Budapest, mais ensuite qui a immigré en Norvège.
Voilà.
Qui est l'auteur du livre dont vous nous parlez aujourd'hui, Michel Laval.
Oui, bien sûr, et qui s'intitule « L'élixir de l'immortalité ».
Ouais.
Si vous aimez les immenses sagas, ça n'est une, il y a 500 et quelques pages. Et c'est sur l'histoire des Juifs de la famille Espinoza, mm-hmm. une famille espagnole, mm-hmm. qui, bien sûr, ensuite, ils ont laissé tomber le E, donc
oui.
c'est devenu la famille Spinoza.
Spinoza.
Et c'est très, très, très intéressant, d'abord parce que c'est très bien écrit, d'une part, ce qui est... Pas très
oui,
commun.
Oui.
Et ensuite, ça fait l'histoire depuis 1140, le premier Espinoza, qui était le médecin du roi du Portugal, jusqu'à la dernière guerre mondiale, bien sûr, et puis l'épopée des Juifs. Mais en arrière de tout ça, il y a vraiment l'histoire de toute l'Europe. Comme vous le savez, les Juifs étaient en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, un petit peu pas en France, en Angleterre.
Dispersés partout.
Voilà, dispersés partout. Et c'est un roman, mais c'est basé sur des faits historique réel. Alors à un moment donné, on ne sait plus si c'est la réalité ou bien si c'est de la fiction, mais il prend des gens très connus, comme le fameux philosophe Spinoza, dont tout le monde a entendu parler, mais il prend aussi des gens très ordinaires. Et il y a une filiation sur 36 ou 37 générations qui ont cet élixir d'immortalité qui, soi-disant, doit... C'est passionnant d'un bout à l'autre de cet ouvrage, malgré les 550 pages.
Alors, toute l'histoire de l'Europe, petite et grande, qui passe en accéléré, nous dit-on, dont un élixir composé d'anecdotes, de récits en tout genre, parfois érotiques, de contes, de considérations religieuses ou métaphysiques, une vraie saga familiale. Mm-hmm. Dites-donc, vous n'avez pas dû vous ennuyer à lire ça,
Michel. Non, mais j'ai trouvé ça passionnant, parce que, bon, il y a des livres qui sont plus ou moins intéressants, mais celui-là, mm-hmm. comme je vous le disais, il est extrêmement bien écrit, j'espère que je l'ai bien lu également, et il est passionnant d'un bout à l'autre, parce qu'il y a des histoires drôles, il y a des histoires un petit peu de sexe, oui, c'est parfois cru d'ailleurs.
Oui, oui.
D'ailleurs, le premier des Spinoza, celui qui était médecin du premier roi du Portugal, il était homosexuel. Et c'est dit tout naturellement, ce qui en 1140 n'était pas évident, alors qu'il y avait des guerres qui sévissaient partout. Vraiment très très bien écrit.
Le fait qu'on traverse comme ça 37 générations, parce que c'est le nombre de générations qu'on va traverser durant
absolument.
Ces 500 pages, on ne se perd pas trop ?
Pas du tout, et absolument.
Pas du tout.
Et ça pourrait paraître répétitif, parce qu'on se dit passer à travers 37 générations, bon, les gens se marient, les gens divorcent, les gens se séparent, les gens se chicanent. Il y a toute l'histoire des Juifs qu'on ne connaît pas forcément.
Juifs nomades ou juifs sédentaires ?
Juifs sédentaires.
Parce que donc là, c'est pas comme les séfarades.
Exact.
Qui se
sont non,
là.
Non, pas du
D'accord.
tout. Mais c'est la famille Spinoza, Espinoza au début, donc il devient Spinoza ensuite, à qui il arrive tout un tas d'histoires. Et c'est extrêmement bien documenté.
Bon.
Ça veut dire que lorsqu'on est au XVIIe siècle, il se passe par exemple des choses et on revoit quiconque et tout le monde, on a quelques notions sur ce qu'était le XVIIe siècle. Et tout le monde peut se retrouver là-dedans. En suivant cette famille. Quelquefois, oui, les noms, on se dit ouais, où est-ce qu'on est rendu et puis tout ça. Mais ça dure que très peu de temps.
On nous aide. Il y a une page au début.
Au tout début, il y a une page avec les 37 lignées. Alors, qui est le fils de qui ou la fille d'eux et ainsi de suite. mais on n'a pas besoin d'y référer beaucoup. On suit le texte. Mais il faut aimer les sagas, évidemment. C'est une énorme saga. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et très bien écrit.
Alors, l'élixir de l'immortalité, il existe cet élixir-là ?
Alors, c'est un roman.
Non,
il n'existe pas.
Non, il existe
à mon
pas.
Avis, il
okay.
n'existe pas, mais je veux dire, j'aimerais ça croire qu'il existe vraiment.
Mais autrement dit, c'est une métaphore.
Exactement.
Ah, d'accord.
C'est une métaphore.
C'est une métaphore.
Et
Du temps qui passe.
Voilà. Et cet élixir, on le voit depuis 1140 et il est transmis de génération en génération par tout un tas d'histoires, par des meurtres, par des disparitions, par des vols. Un petit peu comme l'histoire de la Joconde, là, qui a été peinte, puis qui ensuite s'est promenée à droite et à gauche avant de se retrouver au Louvre. Non, c'est passionnant.
J'ai à vous proposer un extrait lu par vous. J'ai l'habitude maintenant de faire ça pour que les gens puissent entendre exactement à quoi ça ressemble, s'attendre, à part que je truque un petit peu parce que je rajoute parfois une petite musique comme ça, histoire d'agrémenter. Hein, ça vous va ?
Absolument.
Alors, je vous propose donc d'entendre la voix de Michel Laval, ici présent, bénévole, lecteur, ici chez Vues et Voix, lisant un extrait de l'élixir de l'immortalité de Gaby Gleichmann. Je vous l'appelle Gleichmann.
Chapitre 1, le conteur. Tout d'abord, quelques mots sur mon grand-oncle, lui qui sut égayer notre petite enfance. Il y a tant à raconter, et même en faisant de mon mieux, il m'est impossible de tout exprimer, tant le sujet est vaste et dépasse de loin et ma mémoire et ma raison. Si mon grand-oncle était si proche de nous, c'est parce qu'il menait une existence solitaire. Sa femme et leurs jumelles adolescentes, Ancy et Mancy, étaient parties en fumée dans des cheminées. « C'est bien triste, » dit-il un jour en nous regardant, « mais c'est comme ça. » C'était le 24 octobre, je m'en souviens encore. Les rayons pâles du soleil d'automne traversaient les rideaux quand soudain le ciel s'assombrit. Mon grand-oncle se racla la gorge et se mit à pleurer. L'air dans l'appartement était saturé de l'odeur de soupe brûlée, une spécialité de grand-mère. Fernando pleurait à chaudes larmes. Ses épaules tremblaient et ses yeux étaient rouges. Ce jour était celui de l'anniversaire de ses filles. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais fut pris d'une quinte de toux, de sorte que ses mots se disloquèrent et se répandirent dans l'air. Il n'en parla jamais plus.
Et pour accompagner votre lecture, Michel Laval, la lecture d'un extrait de l'élixir de l'immortalité de Gaby Gleichmann, un petit extrait de la musique de la bande originale du film La liste de Schindler.
Ah, voilà.
Façon Europe de l'Est. Oui. Écoutez, c'est un nom imprononçable. Ne me demandez pas le nom de l'orchestre parce qu'il est vraiment imprononçable. Mais quand je l'ai entendu, j'ai dit... Ah, voilà, exactement.
Exactement, la version, c'est très beau, mais je précise que dans le livre, il n'y a pas de musique, évidemment.
Non, malheureusement,
hein,
on veut tellement que les livres arrivent rapidement, évidemment, aux oreilles de nos abonnés, que si en plus, il fallait qu'on s'amuse, entre guillemets, à... Bon, moi, c'est parce que j'aime prendre le temps sur des courts extraits de pouvoir faire ça, mais non, effectivement. Mais de toute façon, vous avez une voix, je m'excuse, Michel, mais vous avez des graves dans votre voix qui me font littéralement craquer, comme
Merci.
Je le disais. Non, mais écoutez, vraiment, c'est sans flagornerie aucune. Comme je le disais tantôt à Catherine Trudeau, j'écoute toujours les extraits les yeux fermés. Et c'est régal de vous entendre. Mais, vous allez nous manquer, vous, quand vous partez là, dans vos congés.
J'avoue que les personnages de ce bouquin sont vraiment très attachants. Ouais. On rit avec eux, on pleure avec eux, on souffre avec eux. Bon, on connaît un petit peu l'histoire des Juifs, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est pas passéiste, ce bouquin. C'est on s'attache aux personnages et à cette famille, à cette grande génération. C'est assez extraordinaire. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi passionnant. Et je le recommande vraiment à tous les lecteurs et les auditeurs et les auditrices.
On vous perd jusqu'au mois d'avril,
exact.
Michel, mais j'espère qu'au mois d'avril, vous viendrez représenter un livre ici à cette émission, un livre découvert.
Avec grand plaisir, Clotilde.
Oh, mais je le souhaite, je le souhaite, je le souhaite. Michel Laval, merci.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ah, on y va maintenant avec la page de littérature. Ben oui, non, c'est moi qui m'étais trompée dans mes petites pages. Ça, je sais que c'est un livre dont vous aviez très, très hâte qu'il arrive, et pour cause, puisque c'est le prix Goncourt de l'an dernier, donc 2013, le livre de Pierre Lemaitre, Au revoir, là-haut. Ça fait partie, je le sais, pour vous, abonnés, quand vous avez hâte que des livres audio vous parviennent. Eh bien, là, cette fois-ci, il est là depuis le mois de septembre. Donc, c'est vraiment tout récent. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir Odette Elie, qui est une lectrice bénévole aussi. Et c'est elle qui a lu ce livre, Au revoir, là-haut. Donc, j'avais envie de vous le présenter un peu et de vous présenter aussi un extrait tel qu'il a été lu par Odette Elie. C'est un peu comme une bande-annonce, en fait, cette rubrique-là. C'est un peu comme un preview en bon français. « Je m'amuse beaucoup. » C'est Pierre Lemaitre qui le confie dans un papier du journal Le Monde. « Et moi donc ?» dit un lecteur qui a lu ce livre. Remarquez, je pourrais vous en parler parce que je l'ai lu aussi. Mais là, je dois dire que j'ai trouvé dans les mots de ce lecteur exactement ce que j'aurais eu envie de vous dire. Et ce lecteur qui dit « Avec son dernier livre, à Pierre Lemaitre, quel plaisir macabre et jubilatoire. » Est-ce que vous l'avez lu?
Non, pas encore. Malheureusement pas lu. Oui.
Amenez-vous ça en Thaïlande. D'accord. C'est génial, vraiment. Dans les derniers combats de la Grande Guerre, parce que c'est là que nous sommes, c'est tristement d'actualité, deux jeunes poilus, improbables frères d'armes, se sauvent la mise mutuellement. Je ne vous raconte pas comment, parce que c'est absolument délirant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à la démobilisation et au difficile retour à la vie civile, ils ne sont que des espèces de rebut, finalement, pour une société désirant tourner le dos aux idées noires. Alors là, on y va dans le marché noir, notamment sur les monuments aux morts. Là, entre autres, il y a un lecteur qui dit « Après ce livre, je ne verrai plus de monuments aux morts et de cimetières militaires de la même manière. » C'est vraiment le royaume de la démerde et de la débrouille. C'est un vrai réquisitoire aussi envers l'administration, l'armée, les turpitudes opportunistes de la société d'après-guerre. Et puis cette espèce, ce frénétique commerce de la mort, car ça a existé. Il y a des cimetières qui se sont fait piller. Il y a en tout cas, et tout ça, on en parle. Alors, il y a des moments de couardise terrible, il y a des moments d'humour. Il y a des moments où vraiment c'est du roman, on lâche pas, on tourne les pages, on a juste envie de savoir ce que celle d'après nous réserve. C'est vraiment, c'est à lire. Et il y a quelqu'un aussi qui a dit, je sais plus dans, est-ce que c'est dans l'Express ou dans je ne sais plus quel journal, qui a dit que ça réconcilie, un de ces livres qui pourrait réconcilier le grand public avec le Goncourt. Parce que c'est vrai que souvent, il y a plein de gens qui disent... Je ne comprends pas pourquoi ça a eu le Goncourt. Mmh. Celui-ci, tout le monde, ou à peu près, sauf Pierre Foglia, a dit « On comprend pourquoi il a eu le Goncourt ». Je vous propose un extrait de ce livre « Au revoir, là-haut » de Pierre Lemaitre, tel qu'il est lu par Odette Elie, que je vais recevoir la semaine prochaine.
Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Pradel. Et surtout, il s'en méfiait. Parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir lui plaisait vraiment. Depuis quelque temps, justement, il était encore moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique. L'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entrain de la troupe l'embêtait beaucoup. Quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquer l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce, Il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous. Les types opinaient prudemment du bonnet en piquant du nez sur leur godillot. Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. Mourir le dernier, se disait Albert, c'est comme mourir le premier, rien de plus con. Or, c'est exactement ce qui allait se passer.
Voilà un extrait de « Au revoir, là-haut » de Pierre Lemaître avec la voix de Odette Elie que je vais donc recevoir la semaine prochaine, comme je vous le disais. « Au revoir, là-haut », un livre très attendu, maintenant disponible au SQLA. Livre signé Pierre Lemaître, je vous le rappelle, et prix Goncourt 2013.
Des nouvelles et des livres.
Ça, c'est une nouvelle assez sympathique, trouvée il y a 2 semaines dans Le Devoir, mais tous les journaux évoquaient ce prix, puisqu'il s'agit d'un prix. C'est le prix France-Québec, pardon, c'est le prix littéraire France-Québec. Et la lauréate, c'est Catherine Leroux, c'est une Québécoise à qui on doit ce livre-là, Le Mur mitoyen. Ça lui vaut, mine de rien, une belle bourse de 5 000 euros. Ça fait quoi? C'est environ 7 000 $. Et puis, c'est une distinction, un prix qu'elle va recevoir, Catherine Leroux, au Salon du Livre de Paris en mars prochain, avant d'entamer une tournée à travers la France. Alors, c'est vachement sympa pour la littérature québécoise. C'est un très, très beau rayonnement. Catherine Leroux qui aborde des thèmes, de la filiation et des origines à travers 4 histoires différentes. Je précise qu'il s'agit de son 2e roman publié en 2013 après La Marche en forêt et le prix France-Québec est décerné depuis 1998 pour souligner l'excellence du roman contemporain québécois. Je précise aussi que La Marche en forêt, je vous le signale, mais il n'a pas été enregistré pour le moment du moins ni à l'INCA ni au SQLA. Par contre, nous avons bien évidemment Le Mur mitoyen. Où Catherine Leroux prouve, nous disait José Lapointe dans la presse, qu'elle n'est pas qu'un feu de paille et qu'elle s'affirme comme une romancière solide qui n'a pas peur de voir large. Et José Lapointe qui nous disait dans le quotidien La Presse que ce roman est un roman choral ambitieux qui suit donc 4 histoires, 4 duos, sans lien apparent. Le mur mitoyen, c'est ce mur entre un frère et une sœur. Ce lien étrange d'identité et de divergence dans une fratrie. Mais qu'est-ce qui fait un frère et une sœur? Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est l'expérience? Et de même, qu'est-ce qui fait un couple? Alors, c'est un peu toute le fondement, la base de ce livre-là, Le Mur mitoyen. Et elle nous dit encore, José Lapointe, dans la presse, que cette jeune auteure est particulièrement fascinée par la génétique. Qui vient donner une espèce de coup de bâton dans les certitudes qu'on a sur qui on est et sur nos familles. Et c'est Catherine Leroux qui parle. Et Catherine Leroux qui dit encore « Je ne sais pas pourquoi, j'y reviens toujours ». En même temps, la question ne se pose pas. On est tous formatés par nos familles d'une façon fondamentale. Et même quand on arrive à se détacher d'un héritage dont on ne veut pas, c'est quand même cette lutte qui définit notre existence. Alors Catherine Leroux, qui, je l'espère, viendra aussi à l'émission. Du moins, je suis en train de m'organiser pour cela, de peut-être l'attraper avant qu'elle s'en aille en France, en début 2015. On nous dit que, et elle l'admet, Le Mur mitoyen, c'est un livre sérieux, c'est un livre grave. Et elle dit oui, elle aime donner du fil à retordre à ses personnages. Elle nous précise, j'aime les rencontrer à des moments importants et décisifs de leur vie. Je m'intéresse à ce qu'on appelle dans les cours de philo 101, je m'intéresse à ce qu'on appelle dans les cours de philo 101 les situations limites. Un petit extrait peut-être du mur mitoyen, nous avons le temps pour cela. Lors de la première rencontre, ils se sont évanouis. Ariel s'est présentée avec un pamphlet de l'association étudiante. Marie a approché ses doigts de la main qu'il lui tendait avec insistance. Leurs paumes sont entrées en contact et, en parfaite synchronie, ils se sont affaissés sur la pelouse desséchée du campus. En reprenant connaissance, ils n'avaient aucun souvenir de leur chute, seule l'impression qu'une onde chaude avait balayé leur corps, persistant comme une brûlure agréable sur la peau après une journée au soleil. Des étudiants qui lisaient non loin d'eux leur ont raconté qu'ils étaient restés inertes pendant plus de 3 minutes. Croyant qu'il s'agissait d'acteurs répétant une scène, ils n'avaient pas tenté de les ranimer. C'est un extrait, je vous le rappelle, du livre qui s'intitule « Le mur mitoyen », livre signé Catherine Leroux, qui vient, je vous le rappelle, de recevoir le prix France-Québec.
Quelques nouveautés en rafale.
Et il y en a de ces nouveautés si j'arrive à retrouver ma page. On va commencer avec ceci, tiens. Les âmes baltes, un périple à travers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie par Jan Brocken. Alors, le résumé de ce livre-là, croisé au fil des pages, ça c'est assez hallucinant. Romain Gary, Marc Rothko, Sergei Eisenstein, Anna Arendt. Qu'ont en commun tous ces gens-là, Arvo Pärt? Eh bien, ils ont en commun d'avoir vu le jour dans les régions bordant la mer Baltique avant de partir construire leur œuvre à l'étranger, et puis en essaimant à travers l'Europe et l'Amérique un peu de cette âme balte. Alors, il semblerait que c'est cette mélancolie empreinte de fatalisme, cette vitalité forgée par les soubresauts de l'histoire, cet appétit de lecture, de musique et d'art, qui fait la richesse, nous dit-on, des portraits peints par Jan Brocken. Je vous appelle Brocken, B-R-O-2-K-E-N. Les âmes baltes périplent à travers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. J'ai aussi à vous faire une autre suggestion, c'est tout nouveau, tout chaud, ça vient d'arriver au SQLA, puisque je vous rappelle que tous les livres-là dont je vous parle sont vraiment des nouveautés qui viennent d'arriver en version audio. Apollinaria, une passion russe, c'est signé Capucine Mott, je vais le franciser, je ne suis pas sûre que je le devrais, mais bon. C'est un livre, nous sommes en janvier 1861. À l'université de Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, la jeune Apollinaria Souslova, fille d'un cerf émancipé, rencontre nul autre que Fédor Dostoïevski. Et elle rêve d'une carrière littéraire, alors il lui promet de l'aider, sans s'imaginer à ce moment-là qu'elle deviendra en fait sa muse. Alors s'ensuit une passion charnelle et orageuse, mes amis, qui réveillera les démons de chacun. L'écrivain est marié et Apollinaria va fuir à Paris, mais n'étreint-on pas toujours ceux qui nous échappent, nous demande-t-on, et demande en particulier Capucine Mott, qui signe ici son second roman. La critique d'un lecteur, quand une jeune fille exaltée croise un écrivain au génie angoissé, la rencontre est explosive. Avec un style fluide, précis, élégant, Madame Mott nous entraîne à la découverte d'un des premiers amours de Dostoïevski. Critique de l'Express, paru le 1er juillet 2013, Capucine Mott entremêle avec bonheur cette double émancipation d'Apollinaria et de la Russie d'Alexandre II, stoppée dans un cas par la confusion des sentiments et dans l'autre par les bombes des anarchistes. Une citation, c'est Madame qui parle Apollinaria. « Je suis persuadée, dit-elle au fond de moi-même, que la capacité d'écrire est une sorte de fluide, un cadeau dont un auteur expérimenté peut faire le don à un plus jeune auteur, une formule magique qu'on se murmure à l'oreille de génération en génération. » Quittons mes amis les pays de l'Est pour la Louisiane, c'est le polar du jour. Je vous en présente toujours un parmi les quelques nouveautés que je vous propose à cette émission à livre découvert. Celui-ci s'appelle « L'arc-en-ciel de verre », du verre comme du verre, V-E-R-R-E. Il est signé James Lee Burkey, j'imagine qu'on doit prononcer comme ça. Moi je dirais Burke, ça, Burke, ça s'écrit B-U-R-K-E. Et alors le résumé, de retour à New Iberia, Dave Robichaud est entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de cette jeune femme. Il y a un lecteur qui dit « Ah, James Lee Burke, ou Burke, ou Burkey, comme vous voulez, j'y reviens toujours. » Avec cet auteur, dit ce lecteur, c'est avec Dave Robichaud et Clint Purcell, c'est toujours la même chose, même intrigue, même construction narrative, même valeur véhiculée, sans façon, à la dure, l'air de dire « c'est ainsi ». Point. Dans cette 18e enquête de Dave Robichaud, rien de nouveau, bien au contraire, même hantise, même démon. Encore et toujours Robichaud et Purcell en pur justicier. Et pourtant, sachant tout cela, j'y reviens quand même. Je crois que ce qui me porte à lire Bourque, c'est son amour inconditionnel pour la Louisiane, pour ses gens mêlés et pour son histoire. Là, une critique de la presse qui était sortie le 31 juillet 2013, où on nous disait « Ce polar a tout pour plaire ». Des descriptions courtes, poétiques, suggestives, des dialogues subtils, de l'action à volonté, une forte tension dramatique et des personnages remarquables à tout point de vue, sans compter un dénouement absolument renversant qui en choquera plusieurs, nous disait-on, de l'arc-en-ciel de verre. Est-ce que j'ai le temps pour un petit extrait ou vraiment très très court alors ? Tenez juste une petite phrase. La Louisiane est un poème, mais comme dans l'épopée homérique, il ne faut pas en examiner les héros de trop près. Cet extrait de ce livre. Et puis un petit dernier, vous savez que j'aime bien aussi un petit côté psychopop parfois, l'autocompassion, une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal. C'est signé Christopher K. Germer, G-E-R-M-E-R. Remue-toi, ne tapis-toi pas sur toi-même. Quand vous êtes anxieux, triste, en colère ou que vous vous sentez très seul, entendez-vous parfois une voix intérieure qui vous critique. Eh bien, que se passerait-il si au lieu de vous battre contre vos émotions négatives, vous les acceptiez ? C'est là tout l'art que vous enseigne ce livre, l'autocompassion, une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal. Et je dois malheureusement interrompre là cette émission. Merci beaucoup à Michel Laval, merci à Catherine Trudeau qui était là aussi en première partie, merci à Gérard Saint-Denis aussi avec qui je me suis entretenue au début de l'émission. Cette émission réalisée et animée pour Canal M par Clotilde Seil et merci à la régie, à Jean-Sébastien Laliberté. À bientôt, bonne lecture, à la semaine prochaine.